9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, AVS, ça veut dire à votre santé, le magazine santé-bien-être de toute la famille sur Beurre FM. 9h-10h, on est un petit peu en retard ce matin, c'est 9h05. Mais il fallait que la petite dame, elle arrive. La petite dame, c'est Karima Shadibaou, bien alignée dans ses intelligences, coach familial et parental. Et maintenant cofondatrice d'une nouvelle école qui vient d'arriver. C'est l'école de naturopathie et de thérapie holistique.
Oui, c'est bien ça. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Voilà, et vous êtes venu avec le docteur Samir Almir, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Comment ça va ?
Ça va, bonjour Philippe, bonjour à tous les orateurs. C'est une grande dame, c'est pas une petite dame Karima, c'est une grande dame.
Je suis là pour la défendre. Debout sur le tabouret, hein, après.
Oh là là.
Non,
oh
je l'aime bien, je l'aime bien, mais bon.
Oh là là, Philippe.
Bon, elle est à peine plus grande que Mireille Mathieu.
On est deux contre Philippe là aujourd'hui.
Voilà. Tu sais, Samir, c'est pas la taille qui compte.
C'est pas la taille.
Ça peut faire un sujet d'émission si vous voulez,
oui.
Mais avec Nadia El Bouga mardi, si vous voulez bien.
Non, ne m'emmenez pas là-dessus.
Je vais vous emmener nulle part puisque le mercredi on parle des enfants et nous allons parler des retards scolaires et des difficultés ou de ce qu'on appelle des troubles d'apprentissage qu'on confond souvent et pourtant c'est pas la même chose, hein. Quelle différence on fait
entre les troubles et les difficultés? Alors les troubles, on est de l'ordre de la pathologie, de l'ordre de quelque chose en fait avec laquelle que l'enfant soit il développe au cours donc de son développement psycho-affectif et cognitif aussi, et donc là docteur Samir va en parler, ou soit c'est quelque chose qu'il va avec lequel il naît directement, notamment on va le voir avec les dyslexies, les dyspraxies, et tous les dys ça veut dire dysfonctionnement, tous les troubles. Et le problème, c'est que ça peut devenir un trouble quand il y a l'intensité de stress, quand il y a la répétition et quand il y a vraiment un terrain favorable, d'accord ? Au niveau de tous ces troubles. On va voir, parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on parle beaucoup aussi.
Alors, là aussi, on en parle beaucoup de ces troubles, de ces 10 d'ailleurs.
Hein. Les 10 et l'hyperactivité aussi. Hein. Moi, je reçois beaucoup en cabinet, presque tous les jours, hein, des parents qui me ramènent leur enfant avec suspicion d'hyperactivité, parce que l'école trouve que l'enfant est trop remuant, que l'enfant manque d'attention, difficulté de mémorisation, difficulté de concentration. Et donc, tout de suite, on va mettre ça dans les troubles, parce que justement les enseignants ne sont pas formés, hein, on peut le dire, hein, je vais le dire comme ça, même si je vais me faire peut-être quelques petits des personnes qui vont peut-être pas être d'accord avec moi, mais le cadre enseignant ne sont pas formés à toutes ces nouvelles pathologies, toutes ces troubles en fait qui apparaissent.
Enfin, ce sont pas nouveaux. La dyslexie,
non,
ça a toujours existé.
Oui, ça a toujours existé,
sauf
mais elle est reconnue depuis
c'était
quand
pas, c'était pas diagnostiqué.
C'est-à-dire que
les gens faisaient tout un parcours scolaire.
Exactement, sans qu'on s'en rende compte, qu'ils s'en rendent compte au moment, à l'âge adulte, quand ils sont confrontés à une difficulté. Et du coup, ils ont passé toute leur scolarité avec cet handicap, parce que c'est un handicap. Ces handicaps-là sont des handicaps invisibles. C'est pas comme si vous avez un enfant avec sur un fauteuil ou avec une difficulté motrice. C'est quelque chose qui se voit. La dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie, les troubles de l'attention, les TDAH, les troubles d'attention avec ou sans hyperactivité et déficit, on ne les voit pas. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc du coup, comment on le détecte et comment on accompagne ça ?
Quand on parle des troubles de l'apprentissage, on parle de ce qu'on appelle les apprentissages fondamentaux. Qu'est-ce qu'on met dedans, ces apprentissages fondamentaux ?
On peut mettre là-dedans l'écriture, la lecture également. Il s'agit de dyslexie pour la lecture et l'orthographe. Il y a 6 catégories, Philippe, de troubles, 10 qu'on appelle 10, dysfonctionnement chez le monde francophone. Mais entre parenthèses, juste ouvrir la parenthèse, la partie anglophone, l'Angleterre, elle est bien avancée par rapport à ces dysfonctionnements, il nomme l'enfant pas dyslexique, pas un dysfonctionnement de l'apprentissage. C'est pas un trouble, c'est une façon, une nouvelle façon, une autre façon de faire les choses en fait.
D'accord. Donc, il les appelle comment alors ?
Il l'appelle, c'est-à-dire, il l'appelle pas ce mot dysfonctionnement, maladie, ainsi de suite. Ils disent que l'enfant, il fonctionne autrement. C'est-à-dire que Et il n'est pas péjoratif. Déjà, ce n'est pas un stress, ce n'est pas un état de pression au niveau de l'enfant. Et il appelle dans ce sens-là pour que l'enfant ne se sente pas exclu. Parce que c'est un enfant qui est complètement intelligent, qui a un QI normal.
Donc ça n'a rien à voir, c'est ça qu'il faut que les parents comprennent, ça n'a rien à voir avec le développement de l'intelligence.
De l'intelligence, ça n'a rien à voir avec les troubles justement de l'apprentissage, parce qu'il y a des gens qui sont cancres ou bien paresseux, parce que leur cortex complet, il ne fonctionne pas en quelque sorte. Mais par contre, les 10, il n'y a que quelques zones qui sont affectées.
On va les nommer, parce que vous avez dit qu'on il y en avait 6.
Ouais.
Donc, le plus connu, c'est la dyslexie. Donc, la dyslexie, c'est...
La dyslexie, la dysorthographie, en fait, on peut la lier. C'est des troubles spécifiques de l'acquisition de langage écrit, communément appelé dyslexie et dysorthographie. Il s'agit d'une altération spécifique et significative de la lecture et ou de la production d'écriture d'orthographe. Deuxièmement, la trouble spécifique de développement de langage oral, dysphasie. La dysphasie, ces troubles concernent le développement de langage oral et peuvent toucher les aspects réceptifs, décodage de langage reçu, ou expressifs, phonétiques, lexicaux, syntaxiques, et ainsi de suite. La troisième catégorie, les troubles spécifiques de développement moteur et ou fonction visio-spatiale, en fait. C'est la dyspraxie. Et il porte sur le développement moteur, c'est-à-dire de l'organisation des gestes et ou l'acquisition des coordinations sensorio-motrices et ou fonction visio-spatiale. Quatrième catégorie, c'est les troubles spécifiques de développement de processus attentionnel ou de fonction exécutive, communément appelé troubles d'attention, ou avec ou sans hyperactivité. Ces troubles portent sur le fonctionnement d'attentionnel exécutif et concernant l'attention soutenue, l'attention dirigée vers une stimulation, l'impulsivité, la précision visuomotrice également. La cinquième catégorie, c'est le trouble spécifique de développement du processus mnésique. Ces troubles peuvent porter sur la mémoire. La mémoire également, il va en parler Karima un petit peu, et ou la mémoire immédiate ou bien la mémoire à long terme. Et il apaise au cours du développement de l'enfant vers 5 à 6 ans et sont permanents. De toute façon, toutes les disques, c'est des anomalies, on va dire, de fonctionnement neuronal au niveau de cortex droit pour
Vous avez une 10 quelque chose là.
Oui, il y a une 10 quelque chose.
La dyscalculie,
en fait, c'est un trouble spécifique de l'activité numérique. Hein, voilà. D'accord. Ces troubles sont des altérations de capacité de compréhension utilisées dans le nombre. Il affecte différents types de numéros, de compter, dénombrer, connaître immédiatement les petites quantités, connaître le système numérique, et ainsi de suite. Il y en a plein
Donc ces 6 catégories, on les rencontre vraiment au petit âge, en fait, quand ils sont petits, et ils peuvent être diagnostiqués par un neuropsychologue, par un orthophoniste aussi, par un psychomotricien. Juste pour revenir sur dyslexie, parce que c'est des noms là, les auditeurs qui nous écoutent, ils disent oh là là, c'est quoi tous ces trucs.
Non, et c'est vrai que même s'ils sont plus connus aujourd'hui, on ne sait pas vraiment en quoi ça correspond.
Exactement.
Un enfant dyslexique, il fonctionne comment? Comment est-ce qu'on va le comprendre?
Dans le fonctionnement de la dyslexie, il y a le mot lexique. Dys, ça veut dire ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il y a un trouble, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Selon la norme, comme l'a dit le docteur Samir, la norme, on voit hein, que ce soit l'approche française, franco-française ou l'approche anglo-saxonne, au niveau de l'approche anglo-saxonne, on est plus dans la positivité, c'est-à-dire que c'est une autre manière de réfléchir. C'est-à-dire que l'enfant va avoir un autre chemin au niveau de la réflexion.
Mais est-ce qui est vrai?
Est-ce qui est vrai? Ça, on n'a pas tous la même manière, mais il y a quand même des standards pour arriver, par exemple, à un enfant quand il découvre, par exemple, quand il apprend le langage, quand le développement du langage autour des 1 an, un petit peu avant, à 1 an, à 18 mois, à 2 ans, L'enfant doit avoir un certain nombre de mots qu'il connaît, qu'il a rencontrés durant toutes ses expériences. Le problème de l'enfant dyslexique, c'est quoi? C'est quand il rencontre un mot. Par exemple, ici, j'ai ma trousse que je vous montre, Philippe.
Je suis très assorti avec votre blouse.
Ah ben oui, ben vous me connaissez,
Vous avez dû passer un temps fou pour trouver une trousse assortie à votre...
Non, du tout, parce que c'est bien enregistré dans mon inconscient. D'accord. Et donc, du coup, je sais qu'est-ce que j'ai comme genre de vêtements.
Carrément, voilà, moi, c'est la combinaison entre les couleurs.
Elle n'est pas daltonienne, en tout cas.
Non, du tout. Donc, je reviens à la trousse. Cette trousse, quand l'enfant voit la trousse, on lui apprend que c'est une trousse, c'est-à-dire c'est un objet dans lequel on va mettre des choses. D'accord ? C'est un contenant. D'accord ? À chaque fois qu'il va rencontrer la même chose, c'est-à-dire au niveau visuel, qu'il le voit, qu'il voit une trousse, il saura nommer l'objet. L'enfant dyslexique ne saura pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas enregistré dans son registre lexical. C'est-à-dire qu'au niveau de la mémorisation, au niveau, il est obligé de rechercher, c'est comme si qu'il redécouvrait à chaque fois le mot.
Alors comment on fait pour faire enregistrer un enfant dyslexique qu'une trousse est une trousse ?
Ah ben, donc il va falloir lui montrer déjà les différentes trousses qui existent, les différentes tailles, et que ce mot,
c'est-à-dire différentes façons d'écrire la trousse, les différents caractères, ainsi de suite.
Il va falloir passer par ces cinq sens.
Parce qu'il faut, juste pour rajouter par rapport à ça, un dyslexie, c'est quelqu'un qui a pas une notion de passé. Il a que 3-4 événements dans son passé, qui existent dans son passé.
Exactement.
Et qui l'y fixent. La naissance, par exemple le mariage, ou ainsi de suite.
Les anniversaires.
Il n'y a que 4 événements. Donc un dyslexie, lorsqu'il raconte une histoire dans le passé à ses enfants, par exemple, il ne va pas la raconter de la même façon que hier, comme le lendemain, que avant, ainsi de suite. Ses amis, la même chose. Ils le cadrent, et s'ils ne savent pas qu'il est dyslexique, s'ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire la dyslexie, il va le cadrer comme un menteur. Parce qu'il change d'histoire à chaque fois. Parce que c'est lui, il n'a pas ce repère là. Il a pas ce repère.
Donc vous voyez, donc c'est au niveau de la mémoire, et donc imaginez au niveau du travail.
Oui, on va l'imaginer. Alors d'abord, pour imaginer, on fait une pause.
D'accord.
Et pendant cette pause, on imagine, vous voyez. Et ensuite, on va revenir justement sur ces troubles scolaires et sur les troubles d'apprentissage. Vous pourrez d'ailleurs poser vos questions au 01 53 48 3000. C'est le numéro du standard de Beurre FM. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. FM, 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, on appelle ça le disque rayé. C'est pour ça que quand le disque est rayé, il repasse. Donc, on parle aujourd'hui des difficultés scolaires et des troubles de l'apprentissage. La stratégie de disque rayé est une stratégie qui est très utilisée en communication quand on veut se débarrasser de quelqu'un. Mais enfin, on en parlera un autre jour. J'ai invité ce matin Karima Chadibaou, qui est coach familial et parental, avec le docteur Samir Almir, qui est biologiste et immunologiste. Et tous les deux, vous avez monté une nouvelle école. C'est l'école de naturopathie et de thérapie holistique.
L'ENAT.
On est en train de parler ce matin donc de ces troubles de l'apprentissage et des difficultés scolaires, parce que souvent, ce sont des difficultés scolaires qui amènent les parents à penser, ou peut-être le corps enseignant, que l'enfant souffre d'un trouble de l'apprentissage. Alors, vous parliez tout à l'heure, docteur Elmire, de l'organisation du cerveau d'un dyslexique. Et vous dites que finalement, il n'est pas du tout organisé de la même façon que nous. C'est-à-dire...
Il n'est pas organisé de la même façon. Il a un cerveau, un dyslexique, et un cerveau normal. D'accord ? Il n'y a que quelques aires qui sont... codés qui sont activés lorsqu'il s'agit par exemple de l'hémisphère droit pour le j'ai une dyslexie de mémoire et l'hémisphère droit pour la coordination et l'hémisphère gauche pour la lecture d'accord et le cortex frontal pour la concentration et l'attention et on a le cortex occipital qui est pour la vision également. Un dyslexie, il faut qu'il passe par une lecture, il faut qui passe par l'œil, donc par le nerf optique, par également le cortex frontal, occipital. Après, il passe droit ou gauche il y a un circuit. Donc, on s'est avéré, il n'y a que des recherches maintenant pour donner la cause de cette dyslexie et un dysfonctionnement de quelques aires qui sont qui sont faits pour la lecture, pour la concentration. Et ils ont dit que au niveau embryonnaire, je vais juste rentrer, si tu permets, Philippe, un petit peu scientifiquement plus profond. Ces cellules neuronales, elles n'ont pas migré à leur endroit. Donc, un dyslexie, il doit se connecter autrement que à travers ces aires-là, c'est-à-dire à travers un autre circuit pour pouvoir développer cette capacité qu'il n'a pas naturellement.
Donc, si c'est un circuit, on le voit à l'imagerie.
On les voit, pour la recherche, on les voit avec la résonance magnétique, l'IRM en fait.
On peut le voir. Donc,
on peut le voir.
Puisque vous dites que le circuit est différent, ça doit pouvoir se voir,
on peut le voir.
À l'imagerie.
À l'imagerie.
Et c'est un circuit en même temps qui, pourquoi est-ce que la plupart des enfants atteints d'un dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie, ça leur demande un effort parce que ce qui vient naturellement chez un enfant qui n'est pas atteint de trouble, chez un enfant qui est atteint de ce trouble-là, qu'est-ce qui se passe ? Ça lui demande encore plus d'efforts parce que le chemin est plus long pour arriver.
Mais ça lui demande plus d'efforts si on le lui explique comme les autres, mais si on le lui explique à sa façon.
Et c'est tout pour à fait. Ça qu'il
absolument.
Y a des séances
ça va tout de suite.
Rééducation, exact. Et
fait.
Au contraire, on va encore l'aider et à ce que cette difficulté devienne un talent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec les séances d'orthophonie qu'il va avoir, les séances avec le psychomotricien pour le dyspraxique qui, lui, a une difficulté dans la représentation mentale de son corps. Il a une difficulté avec son corps. Ouais. On le voit, les parents peuvent remarquer ça à quel moment ? Au moment de la motricité fine. C'est-à-dire, par exemple, s'il veut juste enfiler des perles. Sur un fil.
Ouais, les lacets, on commence en régime, là, voilà, c'est impossible.
Moi, je trouve que les lacets, c'est plus facile que les perles, mais bon, parce qu'on commence à faire ses lacets.
Oui, tout à fait.
Mais les perles, c'est après.
Oui, alors moi, je vais vous dire ça parce que moi, c'est comme ça que j'ai fait avec mes enfants quand ils avaient des scratchs. Ils n'avaient pas de lacets. Parce que
oui, justement, elle conseille aux dyspraxies.
C'était pour faciliter. Et donc, les perles, c'est quand je faisais des activités pour développer leur créativité. Parce que un des super pouvoirs, parce qu'il n'y a pas que des difficultés avec les 10, d'accord, et les troubles. Il y a aussi les super pouvoirs, ce qu'on appelle les super pouvoirs des enfants qui sont atteints de ces troubles. Un des super pouvoirs, c'est une créativité énorme. C'est-à-dire que comme je ne suis pas le chemin comme les autres enfants, c'est-à-dire que j'ai d'autres capacités, d'autres aires au niveau de mon cerveau qui s'activent aussi à ce moment-là. Le cerveau droit, le cerveau de la créativité notamment.
La difficulté avec les dyslexiques, par exemple, c'est qu'ils passent quand même beaucoup à travers les mailles du filet et qui ne sont pas diagnostiqués ou alors qui sont diagnostiqués trop tard.
Trop tard.
Donc,
ou bien
les parents se disent ah ben oui, mais si on nous l'avait dit avant, on s'en serait occupé avant. Quels sont les signes aujourd'hui qui alertent les parents qu'ils ont un enfant qui est potentiellement dyslexique ? Et à partir de quel âge est-ce qu'on peut vraiment le détecter ? Parce que si c'est à 3 ans, c'est peut-être trop tôt.
Non, trop tôt. 3 ans, c'est trop tôt. Il faut que l'enfant...
Trop tôt pour la dyslexie.
Pour la dyslexie.
Par exemple, dyspraxie, on peut détecter bien avant la rentrée scolaire l'enfant qui a des troubles de gestes. Parce qu'en fait, vous savez très bien que notre corps, il fait des gestes automatiques. Pour plier le bras, le biceps se contracte, le triceps se relâche. Donc, on ne réfléchit pas en faisant ces gestes-là. Donc, on a partout des capteurs, c'est comme des capteurs informatiques, mais on a des capteurs, c'est des cellules, les muscles, les fibres musculaires, c'est des détecteurs de l'espace, détecteurs de... Je ne sais pas, si je lance un frisbee, je sais très bien quand est-ce que... Je ne vais pas calculer l'angle qu'il va faire, ainsi de suite, mais c'est automatique.
Et ça fonctionne parce qu'on est coordonné.
Coordonné, voilà tout à fait.
Donc, on le voit. C'est une non-coordination dans ses gestes.
Voilà.
Vous lui demandez d'aller chercher, va me prendre cet objet sur la table. Donc il va regarder, sur ça veut dire quoi ? Quand vous lui dites en dessous, au-dessus, au-dessous, pour lui, il ne sait pas ce que ça veut dire. Va à ta droite, va à ta gauche. Et souvent on le voit quand il commence à pratiquer un sport et que, par exemple, le judo, je me souviens, j'accompagnais un petit enfant qui était dyspraxique. Donc lui, il avait cumulé tous les 10. Dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie, dyslexie. Et dans la séance de judo, dans son cours de judo, quand il voyait, donc il faisait leurs exercices, il était le seul quand il disait levez la main droite, passez, tournez à droite, tournez à gauche, passez sur votre camarade. Et lui, il était là, et donc il faisait des crises. Après, il ne comprenait pas, il était perdu, il se mettait à pleurer. Donc, détresse au niveau émotionnel. je me retrouve plus dans le groupe, je me retrouve plus avec les autres, je suis perdue, donc comment je fais? D'accord? Donc c'est se déplacer dans l'espace.
Au foot aussi, on les voit, les enfants qui sont dyspraxiques.
Oui, au foot également.
Ils sont complètement ils sont pas coordonnés, mais
tout
bon.
Tout, exactement.
Ça fait rire les camarades, l'enfant, il comprend pas ce qui lui arrive.
Absolument, c'est pour cela que...
Le docteur Elmire, il a de super exercices là-dessus.
Ah bon? Tout à fait, tout à fait.
Pour coordonner les deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche.
Tout à fait. Au niveau kinésiologique, il y a les ophtalmos sont en avance par rapport à, enfin, de la recherche. C'est de la recherche toujours. C'est pas encore pour un peu coordonner pour un dyslexique voit mieux et voit en installant des lunettes prismes et en corrigeant la posture, la posture kinésiologique, au niveau kinésiologique. Et ils ont vu que chez chez les dys en général, dyspraxie par exemple, ils ont un déséquilibre au niveau de la posture. En faisant des semelles un petit peu à droite ou à gauche, ça dépend où ils penchent le corps, parce que on peut avoir un déséquilibre à droite ou à gauche, on peut arriver à mettre en point...
Aujourd'hui, ça se corrige.
Ça se corrige.
Et il y a des exercices qui permettent de recoordonner
l'enfant, mais pas corriger totalement, parce que c'est une anomalie qui va suivre toute sa vie, quoi.
Avec le temps, ça ne se corrige pas.
Ça se corrige pas avec le temps. Mmh. Non,
d'accord.
Jamais.
Les parents pensent que ça passe à l'adolescence. Non, ça se corrige.
Non, ça se corrige jamais parce que c'est génétique en quelque sorte.
Aucun des dix. C'est ils apprennent à vivre avec.
Ouais. Ils améliorent la façon de vivre.
Ils connaissent déjà leur champ, le champ neuronal, leur manière de penser. Donc on leur apprend l'orthophonie, c'est ce qu'il fait. Il y a une rééducation. D'accord. Par exemple, je vais donner un conseil moi que j'ai vécu, parce que moi j'ai une de mes filles qui est dyslexique, qui était dyslexique profonde et qui s'est, avec tout le travail qu'on a pu faire, la dyslexie s'est déplacée en dyslexie de surface, d'accord, et qui du coup, l'étape de multiplication, qui est la prise de tête pour les parents, moi avec ma fille, on a détecté sa dyslexie quand elle était en CE2, c'est-à-dire à l'âge de 7 ans.
C'est déjà tard.
C'est pas tard. C'est la bonne.
Ah bon,
pour moi, c'était tard. Pourquoi ? Parce que j'avais j'avais cette sensibilité et cette intuition qu'il se passait quelque chose quand elle était déjà en moyenne section, c'est-à-dire quand elle avait 4 ans.
Justement.
D'accord ? Je voyais certaines choses.
Je veux juste une parenthèse par rapport à le diagnostic des 10, en fait. Parce qu'au fur et à mesure de temps, parce qu'à notre époque, les années télé noir et blanc, on avait une émission par semaine et on regardait la télé seulement une fois par semaine. Mais maintenant, avec les écrans et tout.
Il faut expliquer aux gens qu'il y avait le père qui avait la clé de la porte de la télévision. Donc, s'il partait avec la clé, vous étiez mort pour la semaine.
Tout à fait. Et maintenant, l'enfant, il est tout le temps devant des écrans, tout le temps devant l'écran de l'ordinateur, de téléphone. Ça aggrave la situation des 10. C'est pour cela qu'un 10, il faut qu'il travaille, bien sûr, il a le support. L'ordinateur, c'est un support pour l'aider. Mais pas pour jouer, pour regarder des émissions, ça aggrave la dys.
Bon, alors, on est parents, on a un enfant qui est dyslexique. Quels sont les signes qui nous alertent? Parce qu'il y a quand même des signes avant-coureurs qui peuvent déjà mettre les parents en alerte. Même si très tôt, les enfants, les parents savent qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe, mais que tout le monde me dit, mais non, ça va bien, vous allez voir, non, il a rien. Et donc, qu'est-ce qui peut mettre la puce à l'oreille des parents?
La première chose, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Au départ, l'enfant, quand il apprend les mots, il est en train de développer tout le langage oral. Quand vous voyez, généralement avec la dyslexie, il y a un retard de langage. L'enfant tarde à parler.
Ouais, tout à fait.
Pourquoi? L'enfant tarde à utiliser des mots. Vous voyez la pauvreté du vocabulaire. Ça, c'est un des signes. La pauvreté du vocabulaire, le fait aussi qu'il a les maux de tête, le manque de sommeil. Vous le voyez à l'école, on a l'impression qu'il est un peu paresseux, parce qu'on va mettre l'étiquette paresseux, mais il n'est pas paresseux en fait. C'est parce qu'il essaye de vraiment maintenir son attention et de pouvoir aller chercher. Donc ça, il faut demander en tant que parent, dire comment ça se passe la journée, comment vous le trouvez son attitude.
On a longtemps dit et cru, Karima, que les enfants dyslexiques inversaient les syllabes, alors qu'on s'est rendu compte après que c'était pas toujours vrai.
C'est un des signes. Le dyslexique, quand il voit notre cerveau, le cerveau lit comment? Pour ceux qui ont un développement dit normal. On va lire d'une manière globale, c'est-à-dire on prend la première lettre et la dernière lettre. Mmh. Le cerveau va lire le mot, même si vous mélangez les mots qui sont au milieu, les lettres, pardon, pas les mots, les lettres qui sont au milieu, on va repérer le premier, hop, il y a tout de suite une impulsion nerveuse, je vais chercher dans mon lexique, d'accord, le mot, et je le retrouve et je le donne. Un dyslexique ne le retrouve pas. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il déchiffre. C'est-à-dire qu'il va, même si le mot, il le connaît, là, je vois devant moi, beurre FM. Ben, il y a les couleurs, il y a tout de suite, je sais, je vois le logo, je sais que c'est beurre FM, j'ai pas besoin de le lire. Mais un dyslexique, il va regarder, il va dire, il y a un B, il y a un E, il y a un U, il y a un beurre. Beurre, et il y a F, beurre FM. Et il va chercher, il va prendre un temps, donc la lenteur, ça aussi, c'est un des signes, pour dire, ah oui, mais moi je connais ce mot, où est-ce que j'ai rencontré ce mot ? Et il est obligé d'aller chercher dans quel contexte j'ai rencontré ce mot pour pouvoir ensuite le généraliser. Nous, on ne se pose pas la question, on ne se dit pas, ben, beurre FM, dès qu'on voit la couleur, le B,
on l'a stocké dans le disque dur.
On l'a stocké dans le dyslexique, ne le fait pas.
Je rajoute juste un exemple d'une phrase d'un dyslexique qui l'a dit. 10% des dyslexiques dans la classe vont être distraits par cette phrase et vont chercher des indices pour mieux comprendre mon discours. Donc, le 10% dit D-I-X, il va mettre la même chose phonétiquement parlant pour les 10. Dyslexie, il va l'écrire D-I-X, lexique. Distrait, il va l'écrire D-I-X également. Et par exemple, encore, discours, par exemple, discours, il va l'écrire D-I-X aussi. Donc le premier mot qu'il y a marquer sa mémoire, d'accord,
c'est il va l'écrire la même chose. C'est parce que 10% c'est le premier mot,
ouais,
et il garde en mémoire le 10 de 10%,
voilà.
Et il fait l'association sur tous les mots.
Sur tous les mots, pour lui, ouais. Il n'a pas de faute, il voit qu'il n'y a pas de faute du tout.
Notamment, on travaille beaucoup dans la rééducation sur la mémoire brève, ce qu'on appelle la mémoire de travail, c'est-à-dire là où on stocke. Vous voyez un truc, papa, vous le stockez dans votre mémoire de travail, vous le réutilisez après. Le dyslexique, il n'y arrive pas. Donc il est obligé d'avoir une rééducation là-dessus.
Oui, difficultés scolaires et troubles de l'apprentissage, vous posez vos questions ce matin au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Bien plus que radio. AVS avec Philippe Robichon. Oui, oui,
oui. À votre santé, et on parle des difficultés scolaires ce matin et des troubles de l'apprentissage avec mes deux invités, Karima Chadibaou et le docteur Samir Elmir. On parlait d'une journée, on parlait des 10 en général, mais il y a une grande journée qu'il faut nommer.
Oui, la journée mondiale, c'est le 10 octobre.
Bien.
Tous les ans, c'est toujours le 10 octobre.
Nadia est avec nous. Nadia, vous êtes la bienvenue sur Beurre FM.
Oui, bonjour Philippe, bonjour à vos invités. Donc voilà, mon souci, je vous explique. Donc ma fille, on était l'année dernière en Algérie, et puis la maîtresse me disait que c'était difficile un peu pour ma fille, pour les maths et tout ça. Donc j'avais pris un prof qui l'aidait à domicile, puis qu'il y avait pas de, je ne pouvais pas faire de bilan orthophonique à Alger. Et pendant les vacances, donc je suis à passage à Paris, j'avais pris rendez-vous avec un médecin orthophoniste et elle avait décelé. En conclusion, c'était marqué que ma fille n'avait pas acquis les notions de classification, de raisonnement, d'inclusion. Donc elle m'avait demandé de prendre une prise en charge orthophonique était indiquée. Mais le problème, c'est que donc cette année, donc j'arrive là sur Paris, mais tous les orthophonistes sont pris en fait. Donc je voulais savoir comment faire dans ces cas-là. Est-ce qu'il y avait une autre adresse pour me communiquer, voilà, pouvoir m'aider pour
en urgence, c'est-à-dire
tout, ils sont tous pris en fait. Ils ont tous voilà, il y a pas de, ils sont pleins. Ça, apparemment, c'est beaucoup demandé. Et voilà. Donc, moi, j'ai parlé à la maîtresse. La maîtresse, elle me dit non, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, ça va. Mais bon, à Alger, j'avais quelqu'un qui m'aidait. Donc, ça me rassurait un petit peu parce que la maîtresse, elle me disait que ma fille avait beaucoup de volonté. Donc, elle y arrivait, tout ça. Mais il y a quand même un problème à régler, quoi. Et là, je suis perdue parce que j'ai appelé tous les orthophonistes qu'il y a sur sur le bottin et tout est pris.
Oui, alors il y a un vrai problème avec les orthophonistes, c'est que il y a tellement de demandes et pas assez d'orthophonistes, donc là-dessus, à moins de faire du forcing ou peut-être d'y aller directement aussi, pouvez aller à l'hôpital, à Robert Debré aussi, vous pouvez aussi avoir, par exemple, Robert Debré, il y a aussi l'hôpital Necker, et qui prennent, surtout si vous pensez, maintenant, Qu'est-ce qui vous fait penser que vous, puisque vous dites pour le moment la maîtresse dit que ça va, elle s'en sort, qu'il n'y a pas trop de difficultés. Vous arrivez à faire la différence entre difficulté et trouble, ou est-ce que vous avez juste une suspicion ou
Non, parce qu'en fait, moi, je sais que en fait, les maths, pour elle, déjà, les problèmes, c'est très difficile. Elle n'arrive pas à faire. Donc, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je sens que ce n'est pas catastrophique parce qu'elle a de la volonté. Donc, on y arrive. Mais si on peut l'aider, je veux dire, à régler ce problème-là, ça sera plus facile pour elle. Donc, moi, j'essaye de prendre les choses. Donc, la maîtresse, elle m'a dit, écoutez, là, c'est trop tôt, je n'arrive pas. Ne vous inquiétez pas, vous venez d'arriver.
Elle a quel âge,
donc, mais
moi, votre fille
pas...
Elle a quel âge, elle a quel âge votre fille?
Elle va avoir 9 ans, là.
9 ans, d'accord. Donc, elle est en CM1, c'est ça?
C'est ça, oui.
Et c'est quoi les signes que vous avez remarqués?
Alors, moi, les conclusions, elle avait dit qu'elle n'avait pas acquis totalement. Donc, elle lui a fait des tests et tout ça. La classification, le raisonnement, la sériation, voilà.
D'accord.
J'ai relevé ces petits mots-là. Mais, donc, est-ce qu'elle va y arriver? Donc, moi, la question que je me pose et que je vous pose, c'est que est-ce qu'elle elle pourra faire elle va y arriver ou pas, quoi, en fait? Parce que je suis inquiète.
Alors, Nadia, vous êtes... Alors, moi, c'est quelque chose que je dis toujours ici, vous êtes le premier sponsor de votre enfant. Il faut y croire. Déjà, il faudra faire taire un petit peu ce stress que vous avez et cette peur que votre fille ne réussisse pas. Là, on vous dit qu'elle est de bonne volonté, qu'elle y va, même si elle a quelques petites difficultés. Mais là, de ce que vous dites, ça n'a pas l'air d'être des choses de l'ordre des troubles. D'accord. Maintenant, il y a aussi le rythme de l'enfant, il y a le temps aussi d'imprégnation de l'enfant. Donc ça, il va falloir bien sûr faire attention à tout ça et prendre en considération tout ça et pas vouloir trop non plus lui mettre la pression. Parce que la question du rythme, la question aussi de elle y va, elle a de bonne volonté, l'école, ça marche par cycle. Ça veut dire qu'il y a un temps pour que tel et tel apprentissage puisse se faire dans un certain temps et laisser l'enfant, en fait, d'aller aussi à son rythme. D'accord.
Oui. Mais est-ce que pour
c'est
tranquille.
Exactement ça. En fait, moi, j'ai constaté que, en fait, elle y arrivait, mais plus lentement que les autres.
Et
en fait.
Alors sortez de la comparaison. Il y a son temps à elle. Quand je dis comparaison, ouais. Ça dure par rapport à d'autres enfants. D'autres parce enfants. Que qui nous dit que c'est mieux comme ça? Les enfants, vous savez, ils développent chacun leur manière de faire et leur propre rythme. Donc vous voyez les choses sur lesquelles elle a plus de facilité et enlevez toutes les nuisances. Quand je dis toutes les nuisances, ça c'est aussi un des symptômes hein, pour qu'on repère par rapport aux difficultés et aux troubles. Si des nuisances sonores ou dans quelles conditions elle apprend bien. Ouais. Et généralement un enfant qui se sent bien, c'est un enfant qui apprend bien. Donc faites en sorte qu'au niveau aussi émotionnel, elle puisse être bien, se sentir bien pour pouvoir faire tous ses apprentissages.
Vous pouvez commencer par le test QI, comme je évoquais tout à l'heure, parce qu'il faut voir est-ce que c'est justement il s'agit d'un trouble ou bien d'un retard général, hein, généralisé. Donc le test QI, c'est vrai que c'est pas un test efficace à 100%, mais au moins on sait que l'enfant il est intelligent, le mot intelligent que j'aime pas utiliser parce que tout le monde est intelligent. L'intelligence il est normal, hein. On peut comparer par rapport à d'autres, il faut faire un test QI, mais pas le comparer réellement avec un enfant normal, parce que les dyslexies ils sont pas inintelligents, ils sont intelligents également.
Et je vais vous donner une petite astuce, Nadia. Vous pourrez regarder, parce que l'émission est filmée aujourd'hui, je vais montrer un livre qui s'appelle « Sans idées » pour mieux gérer les troubles de l'attention, donc par rapport à la lenteur, par rapport à tout ce qui est de la mémorisation. C'est un livre qui est super bien fait, pas trop cher, il est à 14 euros aux éditions Tom Pouce. Et ce livre-là, vous allez voir, il y a des astuces et des idées. Du coup, vous, ça va pouvoir vous donner des billes et vous accompagner et à mieux aider votre fille. D'accord, Nadia?
Bien, je vous remercie. Et je voulais savoir, donc, vous n'aviez pas part l'hôpital...
Robert Debré, Necker, voilà. Des enfants.
Et puis faites le forcing avec les orthophonistes, dites-vous, vous voulez absolument un bilan et
vous pourriez vous inscrire à des associations. Il y a des associations qui informent beaucoup les gens par rapport à ça, et ils peuvent vous donner aussi les tuyaux pour trouver des orthophonistes et ainsi de suite.
Voilà. Bon courage, Nadia.
Merci, Nadia. Salim est avec nous au 01 53 48 3000. Salim, bienvenue sur Beurre FM.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour Salim.
Bonjour Salim.
Bonjour Karima. Bonjour Samir.
Bonjour.
Voilà, en fait, tout simplement parce que j'écoute la radio Beurre FM, il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est justement le terme d'aujourd'hui sur justement la dyslexie. Donc, moi, je pose des questions parce que...
Alors, la dyslexie, c'est une discipline olympique, hein, Salim.
En fait, j'appelle, c'est pour justement analyser, je sais pas ce que mon fils est, il a ça ou pas, par rapport, je vais vous donner un petit peu de qu'est-ce que je remarque chez mon fils. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il a 3 ans, là, il est rentré cette année au mois de septembre à la maternelle. Donc, il a vraiment du mal à parler. Il parle, il dit des mots, mais c'est-à-dire qu'il dit pas des mots, il dit pas des phrases, il dit juste des mots comme ça, papa.
Ouais, d'accord.
Voilà, il dit des choses, papa, maman, c'est difficilement pour qu'il parle.
Très bien. D'accord.
Alors, voilà, vous avez dit que si vous remarquez votre fils, disons qu'il a du mal à parler...
Alors, je poserai juste une question, Salim. Est-ce que dans votre famille, il y avait quelqu'un de dyslexie,
hein? Il n'y a pas.
Il n'y a pas. Vous, personnellement, vous n'avez pas une difficulté d'apprentissage lorsque vous étiez petit, enfin, qu'on n'a pas diagnostiqué, bien sûr?
Ah oui. Moi, oui. Ouais, exactement.
Voilà.
J'ai des difficultés à, en fait, quand j'étais jeune, bien sûr,
oui.
Et adapter, c'est-à-dire d'être brillant à l'école.
Ouais, ouais.
Mais après, par contre, j'étais quelqu'un de très intelligent au niveau.
Tout à fait.
On
a parlé de ça. Les dyslexies, ils sont très intelligents, même un petit peu supérieurs aux autres, parce que ils développent des circuits neuronaux qui sont beaucoup plus sollicités. Par la malformation, en fait.
Déjà
à 6G. Bon, on peut dire, dans ce cas-là, je vais répondre à Salim, je vais commencer à répondre à Salim par rapport à la génétique, parce que on peut dire qu'il est génétique, parce que généralement, si un dyslexie, on monte dans l'hierarchie, dans l'arbre généalogique, on trouve toujours quelqu'un de la famille qui est dyslexique,
oui,
et qui a transmis. C'est pas un gène de dyslexie, hein, il faut que je précise, oui, bien précisément. C'est des gènes de fonctionnement des arts que j'ai évoqués, oui, tout à l'heure.
Alors, Salim a un petit garçon qui a 3 ans.
Alors,
3 ans, est-ce que c'est pas un peu tôt?
Alors, c'est un peu tôt.
Un peu tôt, ouais.
Et en même temps, pas tôt, parce que là, de ce que vous dites, si il a des difficultés à parler, il utilise que des mots et c'est un peu monosyllabique, il peut,
oui,
y avoir, et je mets des guillemets, il peut y avoir dysphasie. On n'a pas parlé de la dysphasie. Dysphasie, c'est la difficulté, en fait, à parler. Vous avez l'enfant, généralement, vous savez, le petit enfant, quand il naît, est-ce qu'il a, au moment de la naissance, les médecins le voit, donc le pédiatre notamment, et il observe sa langue. Et notamment, les enfants atteints de dysphasie peuvent avoir la langue qui est attachée. Vous savez, en dessous, sous la langue, il y a un espèce,
oui,
de je ne sais pas comment on appelle ça.
Un cloison.
Voilà.
Ah non, il n'y a rien de remarqué.
Un frein, voilà, qui peut être un frein. Et donc là, généralement, les médecins, tout de suite, le voient, ouais, ils coupent pour pouvoir délier la langue. Ça, c'est, ouais, la première chose, c'est au niveau physiologique. Maintenant, si c'est au niveau neuronal et au niveau du cerveau, une dysphasie, ça ne mange pas de pain de l'emmener voir un neuropsychologue qui, lui, pourra vous dire, et dès cet âge-là, l'âge de 3 ans, et voir si après il y a un suivi orthophonique, si vous remarquez la pauvreté du langage, la pauvreté des échanges aussi, comment est-ce qu'il, quelle est l'interaction qu'il a avec son environnement, avec les autres. Ça, vous devez être observateur. Mais soyez en phase observateur pour le moment. Et, oui, si vraiment vous sentez que ça a du mal à décoller, attendez de voir ce que vont vous dire les professeurs aussi. Et là, dans ce cas-là, allez voir un neuropsychologue, parce que lui, il pourra vous dire,
d'accord,
ou un neuropsychiatre pourra vous dire exactement ce qui se passe.
Mais c'est bien de détecter...
Alors, rapide, Salim, ouais, rapidement.
Voilà. En fait, vous avez dit tout à l'heure, pour détecter justement cette maladie-là, entre guillemets, si on disait à l'enfant d'aller chercher quelque chose,
oui,
et qu'il réfléchit à 3 ou 4 fois, moi, mon fils, c'est pas le cas.
Bon.
Si je lui dirais... Voilà.
Donc, il comprend, ouais, il vous comprend. Donc, ça se trouve, c'est juste un retard de langage, hein, c'est tout. Et à un moment donné, il va y avoir explosion du langage,
ouais,
ou parce qu'il est en train d'enregistrer. Et à un moment donné, il va vous sortir les,
ouais,
phrases.
Moi, je vous conseille de le suivre tranquillement, de se former vous-même, parce que parents, toujours...
Alors, conseil de lecture, Karima.
Conseil de lecture,
le tiroir coincé, c'est comment expliquer la dyslexie aux enfants et aux professeurs, c'est super. Toutes les éditions Tom Pouce. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Celui que j'ai donné tout à l'heure, les 100 idées pour mieux gérer les troubles de l'attention, avec tout ce qu'il y a sur les TDAH et compagnie. Sur la dyslexie, pareil, c'est la même édition. Et sur la dyspraxie. Voilà, ça, c'est les bonnes lectures.
Bien, merci d'avoir été avec nous. Vous retrouvez l'émission sur YouTube, en podcast. Merci de nous avoir écoutés. Belle journée sur Beurre FM.